toute la confiance des Grecs, toute la force de leurs armes, était fondée sur la protection de Pallas. Mais du jour que l'impidiomède, Culisse, l'âme de tous les forfaits, entreprirent d'enlever, jusqu'en son temple saint, le fatal palladium, qu'à travers la garde égorgée, ils osèrent saisir l'auguste emblème de la déesse, et souiller de leurs mains sanglantes ses bandelettes virginales. De ce jour, les Grecs virent s'éloigner l'espérance avec la victoire. Leur courage s'abattit. Pallas repoussa leur encens. Ce fut par des signes non douteux que l'immortel manifesta sa colère. À peine fut assise en nos camps sa divine statue, des traits de flamme jaillirent de ses yeux irrités. Une sueur brûlante courut par tout son corps. Et trois fois, ô surprise, trois fois, se dressant tout à coup, elle agita son égide et sa lance frémissante. Aussitôt, Calchas annonce qu'il faut repasser les mers, que Troie ne peut tomber sous le fer des Argiens, s'il ne retourne dans Argos, prendre de nouveaux auspices et n'en ramène des dieux plus favorables, guidant comme autrefois sur l'onde nos poupes triomphantes. Maintenant donc que les perfides, poussés par des vents amis, vont revoir leur Mycène, c'est pour vous préparer de plus rudes attaques, se concilier le ciel et, mesurant une seconde fois les eaux, reparaître à l'improviste sur vos bords épouvantés. C'est ainsi que Calchas interprète ce prodige. Afin d'apaiser Minerve et de remplacer son image, ils ont, sur la foi du prophète, bâti ce pieux monument, dont la vertu doit effacer leur attentat. Calchas a voulu que l'art en exauça l'industrieuse charpente et la porta jusque aux cieux, pour qu'il ne pût franchir vos portes, pénétrer dans vos murs, et devenir le nouveau gage de leur éternelle durée. Car si jamais votre audace violait l'offrande consacrée à Minerve, alors, puissent les dieux détourner sur Calchas son funeste présage, alors, malheur à l'empire de Priam, malheur à la Phrygie. Mais si vos mains respectueuses l'introduisent au sein de vos remparts, à son tour, l'Asie conjurée portera la désolation dans l'héritage de Pélops, triste destinée qui menace nos neveux. Tant d'artifices, tant de parjures, endorment la défiance, et la malice d'un fourbe et ses larmes feintes triomphent enfin de guerriers que n'avait pu soumettre ni le fils de Tydée, ni l'impétueux Achille, ni deux lustres de guerre, ni mille vaisseaux armés. Bientôt un spectacle plus frappant, plus terrible, s'offre à nos regards interdits et jette dans nos âmes un trouble inattendu. Nommé par le sort pontife de Neptune, Laocoon, près des autels ornés de guirlandes, immolait un taureau superbe au souverain des mers. Tout à coup, j'en frémis encore, vomi de Ténédos par un calme trompeur, deux serpents s'allongent sur la plaine liquide et roulant leurs orbes immenses, glissent de front vers le rivage. Leur luisante poitrine se dresse au milieu des flots, et de leurs crêtes sanglantes ils dominent les ondes. Leurs flancs se traînent en effleurant l'abîme, et leurs queues se recourbent au loin en replis sinueux. Soudain, la vague écume et gronde. Les monstres ont touché l'arène. Et l'œil rouge de sang, les prunelles enflammées, ils font siffler leur triple dard dans leur gueule béante. Tout fuit épouvanté. Mais plus rapide que l'éclair, le couple affreux vole aux autels. Là, saisissant d'abord les deux jeunes fils du grand prêtre, il embrasse d'une horrible étreinte leurs membres délicats et déchire de morsures leur chair palpitante. En vain leur père accourt et balance un trait menaçant. Déjà les reptiles l'ont enlacé lui-même. Lui-même il l'enchaîne, il le serre de leurs vastes anneaux, et replié deux fois autour de ses flancs robustes, deux fois environnant son cou nerveux de leur cercle d'écailles, ils dépassent fièrement sa tête de leurs têtes altières. Lui, roidissant ses deux bras contre ses nœuds épouvantables, tout couvert d'un sang livide et dégoûtant des noirs venins qui souillent son bandeau sacré, il pousse vers le ciel d'effroyables clameurs. Tel mugit un taureau blessé lorsque, échappé des autels, il a dérobé son front à la hache incertaine. Enfin les dragons vainqueurs gagnent, en rasant la terre, les hauteurs du temple, et réfugiés dans le sanctuaire de l'inflexible palassas, s'y cachent aux pieds de la déesse, sous l'abri de son bouclier. À ce prodige, l'effroi redouble dans tous les cœurs. L'impie, s'écrie-t-on, a son juste salaire. Lui dont la lance outragea ce bois vénérable, lui dont le fer sacrilège en blessa les parois sacrées. Conduisons dans ses demeures ce nouveau palladium. Et fléchissons par nos vœux le courroux de Minerve. Aussitôt s'écroule sous nos coups un large pan de nos murailles, et nos remparts sont ouverts à l'ennemi. Chacun s'empresse d'aplanir le passage. Les uns coulent des roues mobiles sous les pieds du colosse, d'autres suspendent à ses pieds de longs cordages. La fatale machine gravit nos retranchements, enceinte d'une armée. Alentour, nos enfants et nos vierges font retentir l'air de chants religieux et se plaisent à toucher le câble qui la traîne. Elle entre enfin, elle entre et s'avance menaçante au milieu de la ville. Ô ma patrie! Ô séjour des dieux, Ilion, cité célèbre par tant d'exploits, cité de Dardanus. Quatre fois, au seuil même de nos portes, la masse énorme s'arrêta. Quatre fois, ses antres retentirent du cliquetis des armes. Cependant, ô délire, nous empressons la marche. Et poussés d'un aveugle transport, nous plaçons le monstre sinistre sous les lambris de l'immortel. Alors, même Cassandre, élevant sa voix fatidique, nous prédit nos malheurs. Mais hélas, un dieu nous rendait sourds à la voix de Cassandre. Et nous, infortunés, nous dont luisait le jour suprême, nous en faisons un jour de fête, nous courons parer nos temples de verdure et de fleurs. Enfin le soleil a décrit son tour, et la nuit s'élançant des gouffres humides, enveloppe de son crêpe immense, et le ciel, et la terre, et les complots des Dolopes. Les Troyens, sous leur toit paisible, s'abandonnent au repos, tout dort. Et dans Pergame règne un calme profond. Mais déjà les nefs de Mycène s'avançaient de Ténédos dans leur menaçant appareil et voguaient à la faveur du silence et des ombres vers un rivage, hélas, trop connu. Un fanal, arboré sur la poupe royale, a fait briller ses feux. À l'instant, sinon, que le ciel irrité protégeait pour notre ruine, rompt furtivement la barrière qui retenait les Grecs et les délivre de leur sombre prison. Le repaire s'ouvre et les rend à la lumière. De ces voûtes caverneuses se précipitent avec une joie barbare et Thécandre, et Sthénélus, et l'exécrable Ulysse, en glissant le long d'un câble officieux. Après eux, s'élancent Acamas et Thoas et Pyrrhus, bouillant fils d'Achille, et Macaon et Ménélas, et l'inventeur du stratagème, le cruel Épéus. Les lâches fondent sur un peuple enseveli dans le sommeil et les fumées du vin. Ils massacrent les gardes, ils s'emparent des portes, et les ouvrant de toutes parts aux farouches enfants de l'Olide, en poussent dans nos murs les phalanges conjurées. C'était l'heure où Morphée secoue ses premiers pavots sur les malheureux mortels et leur verse l'oubli des maux, ce doux oubli présent des dieux. Tandis que j'en goûtais les charmes, un songe vient offrir Hector à ma vue. Mais le front couvert d'un voile de tristesse, mais les yeux mouillés de pleurs, tel qu'un vainqueur inhumain le traîna jadis à son char, le visage souillé d'une fange sanglante, les pieds livides et traversés d'une infâme courroie. Dieu, sous quel trait je le voyais paraître! Qu'il était loin de ressembler à ce terrible Hector, qui revenait chargé des dépouilles d'Achille, ou dont la main foudroyante lançait les torches d'Ilion sur les vaisseaux d'Argos. Sa barbe était hideuse, un sang noir collait ses cheveux, et ses flancs étalaient encore ses blessures sans nombre, dont ils furent déchirés sous les murs paternels. Moi-même alors, je crus sentir couler mes larmes, et mon âme abusée exhalait ainsi sa douleur. Noble flambeau de la Phrygie, ô le plus sûr espoir des enfants d'Ilius, que ton retour s'est fait attendre! Quel bord t'arrêtait loin de nous, Hector, si longtemps désiré? Après tant de funérailles, lorsque tant de combats divers, tant d'assauts obstinés, ont lassé notre courage, en quel état, hélas, viens-tu nous secourir? Quel indigne outrage déshonora ton auguste visage? Pourquoi ces larges cicatrices? Muet à ces vains discours, le héros dédaigne d'y répondre. Mais poussant du fond de son cœur un pénible soupir, fuis, ô fils de Vénus, dérobe-toi, dit-il, aux flammes qui t'environnent. Mycène est dans nos murs. Troie s'écroule. Ses tours altières sont en poudre. Nous avons fait assez pour la patrie, assez pour le monarque. Si le bras d'un mortel avait pu sauver Pergame, le bras d'Hector l'aurait sauvé. Troie, confie à ton amour les objets de son culte et ses dieux tutélaires. Qu'ils deviennent les compagnons de ta destinée. Qu'errants avec toi sur les ondes, ils se fixent enfin avec toi dans les murs superbes d'un nouvel Ilion. Il dit. Et du sanctuaire de Vesta, ses mains rapportent l'image protectrice de la déesse. Et ses chastes atours, et les feux éternels qui lui sont consacrés. Cependant, le trouble et la désolation se répandent dans nos murs. Et, quoique la demeure d'Anchise se perde à l'écart sous l'ombrage d'un bois épais, déjà les cris plus aigus en ont percé l'enceinte, et l'horreur y pénètre avec le fracas des armes. Arraché des bras du sommeil, je vole au faîte de l'édifice, et, l'oreille attentive, j'interroge les vents. Ainsi, quand la flamme, poussée par l'austère furieux, court en pétillant à travers les guérets, ou qu'un rapide torrent, grossi par les eaux des montagnes, inonde les vallées, inonde les riantes moissons, trésor du laboureur, et roule dans ses vagues mugissantes les forêts déracinées. Debout, sur la cime d'un roc, le pasteur écoute immobile et cherche la cause du bruit qui l'a frappé. Alors s'explique le mystère d'un songe trop véridique. Alors se dévoile à mes yeux toute la perfidie des Grecs. Déjà, le vaste palais de Déiphobe s'est abîmé dans les flammes. Déjà, le feu dévore les longs portiques du Calégone. Les lueurs de l'incendie se réfléchissent au fond sur les mers de Cigée. De toutes parts se font entendre et les clameurs des guerriers et les éclats du clairon. Hors de moi, je saisis mes armes sans trop savoir quel secours j'en puis attendre. Mais je brûle de rassembler une troupe intrépide et de m'ensevelir avec elle sous les débris de la citadelle. L'ardeur de la colère précipite mon courage. Je n'aspire plus qu'à l'honneur d'un glorieux trépas. Mais voilà qu'échappé, non sans peine, aux traits des ennemis, Panthée se présente à mes regards. Panthée, pieux enfant d'Autrice et prêtre du temple d'Apollon. D'une main portant ses dieux vaincus et leurs saintes reliques, traînant de l'autre son petit-fils, il venait, éperdu, se réfugier dans mon palais. Que peut encore la vaillance, ô Panthée? Où porter l'effort de nos coups? Le vieillard, à ces mots, s'écrie d'une voix lamentable. Il est venu, le dernier jour de notre empire, le terme fatal de nos grandeurs. Plus de Troyens, plus d'Ilion. Notre antique splendeur s'est évanouie comme une ombre. L'impitoyable Jupiter a couronné les vœux d'Argos. Tout plie sous les Grecs dans le Pergame embrasé. Le fatal colosse introduit dans nos murs y dresse sa tête menaçante et vomit au milieu de nous des bataillons armés. Et sinon, triomphant, sinon, la torche en main, insulte à notre funeste crédulité. Ici, des milliers d'assaillants ont enfoncé les portes. Jamais l'orgueilleuse Mycène n'enfanta plus de guerriers. Là, des rangs épais de soldats hérissent chaque passage d'une forêt de lances. De tous côtés s'élèvent des remparts de fer. De tous côtés, les glaives nus étincellent, prêts à donner la mort. À peine la garde avancée tente hors des murs un combat inégal. Ses coups mal assurés se perdent dans les ténèbres. Exalté par ces cruelles images, et plein d'un dieu qui m'entraînait sans doute, je me jette à l'instant parmi les dards et les flammes, partout où m'emporte une aveugle furie, partout où m'appelle le cliquetis des armes, et les cris poussés jusque aux cieux. Sur mes pas accours, aux pâles clartés de la lune, et le généreux Épitus, et le sage Riphée. Bientôt se joignent encore à nous Hypanis et Dimas, et Coreb, bouillant fils de Mygdon. Coreb qui, dans ses jours d'alarme, brûlant pour Cassandre d'un fol amour, était venu briguer dans Troie le titre de son époux, et porter à Priam, à ses peuples, le secours de son bras. Malheureux, que ne croyait-il au conseil d'une épouse inspirée?